Christelle Rebière, Vincent Parisot.
L'invité de RTL Midi.
Yves Bertoncini, le directeur de l'Institut Jacques Delors, bonjour. Bonjour. Alors on l'a dit dans le journal, les dirigeants européens poursuivent leur marathon bruxellois pour arracher à 28 donc un éventuel compromis sur les réformes demandées par David Cameron, puisque le Premier ministre réclame un accord suffisamment fort pour ensuite pouvoir persuader les électeurs britanniques de soutenir le maintien au sein de l'Union européenne lors du référendum qui devrait avoir lieu en juin. Quand on entend, hein, au moment de ces négociations hier ou encore aujourd'hui, c'est l'heure de vérité, ou alors ça passe ou ça casse, est-ce que c'est vraiment la réalité? On est au pied du mur ou c'est un peu du cinéma?
Oui, il y a une dramaturgie assez shakespearienne, si j'ose dire. L'heure de vérité, ça sera le référendum qui aurait lieu le 23 juin si l'accord arrive cet après-midi. Sinon, ça serait décalé après l'été pour des raisons réglementaires. L'heure de vérité, ça sera un choix parfaitement démocratique. L'Union n'est pas une prison, donc si les Britanniques veulent en sortir, ils le pourront. Un choix qui portera en petite partie, je crois, sur le texte qui devrait sortir de la réunion d'aujourd'hui, et beaucoup sur le contexte, c'est-à-dire ce sentiment de malaise historique des Britanniques vis-à-vis de l'Union européenne, un pied dedans, un pied dehors. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, beaucoup d'enjeux de politique intérieure qui sont déjà les enjeux qui ont conduit Cameron à être acculé à organiser ce référendum.
Mais concrètement, qu'est-ce qui est acceptable pour l'Europe et qu'est-ce qui ne l'est pas aujourd'hui?
Il y a quelques lignes rouges, il y a beaucoup d'enjeux symboliques. Les lignes rouges, il y en a au moins deux. La première, c'est de ne pas laisser la City être régulée par des règles spécifiques, puisqu'elle agit au sein d'un marché unique. Donc il faut des règles communes à tous les acteurs financiers. Là, il y a un point de vigilance, notamment côté français. Il y a une autre ligne rouge sur la libre circulation des travailleurs. Ça, c'est l'un des fondements du traité de Rome. Ça ne date pas d'hier. À ce stade, elle n'est pas remise en cause. Il est simplement constaté que si, dans certains pays, et au hasard, le Royaume-Uni, il y a trop de travailleurs sur certains secteurs, les critères dont vont encore être définis, alors à ce moment-là, on pourrait leur faire perdre le bénéfice de certains crédits d'impôt, d'abord, et puis prestations sociales.
Est-ce que ça, c'est acceptable, parce que c'est quand même en contradiction avec la libre circulation et puis avec l'égalité des citoyens européens?
C'est acceptable au sens où le principe est pleinement maintenu, mais qu'on constate que dans certaines circonstances, on ne peut plus réellement l'appliquer. Ça, c'est une notion qui existe dans les traités européens, c'est-à-dire que
mais à partir du moment où on accepte pour l'Angleterre, tout le monde va vouloir la...
Non, parce que la même situation ne se reproduira pas, en tout cas plus difficilement. L'Angleterre, il faut le dire, d'ailleurs, elle devrait s'en féliciter, est très attractive parce qu'elle crée des emplois, parce que la langue anglaise est plus facile à maîtriser que l'espagnol ou le polonais. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent chez elle. C'est un signe de bonne santé, mais malheureusement, ça se retourne contre elle dans le débat public.
Il y a un autre point d'accrochage aussi, c'est la volonté de Londres de pouvoir peser sur les décisions qui concernent l'euro, alors qu'elle n'est pas dans la zone euro.
Absolument, mais ça, je dirais qu'elle obtiendra un droit de regard peut-être, mais pas un droit de veto, et que David Cameron n'a pas d'illusion là-dessus.
La France a déjà dit qu'elle était opposée à ce droit de veto.
Un droit de regard, c'est déjà pas mal.
On s'interroge quand même avec vous maintenant sur les conséquences de cette éventuelle sortie du Royaume-Uni. Hein. Il faut quand même l'envisager. Conséquences politiques, économiques, évidemment. L'Union européenne perdrait 13% de sa population. Elle peut encaisser ce choc ?
16% de son PIB aussi. Ce serait une amputation. C'est un membre important, le Royaume-Uni, donc on se couperait un bras, je dirais. Pas les jambes. Les deux jambes, c'est plutôt la France et l'Allemagne. Donc l'Union européenne continuerait à marcher, mais elle aurait moins de prise sur la réalité, parce que non seulement c'est un grand pays, le Royaume-Uni, mais notamment en matière diplomatique et militaire, et c'est si important aujourd'hui, avec toutes les crises à nos portes, bien, on perdrait, non pas un allié, parce qu'il serait toujours membre de l'OTAN, mais un membre de la famille. Donc ça serait effectivement une forme d'amputation pour l'Union européenne.
Et du coup, la France et l'Allemagne pèseraient encore plus lourd.
Alors, il y aurait effectivement un effet retour sur le couple franco-allemand. Les Allemands n'ont pas tellement envie de se retrouver en tête-à-tête avec les Français, d'ailleurs, parce que l'Europe serait moins libérale à leur goût. Peut-être que les Français secrètement rêveraient, eux, en revanche, de se débarrasser du Royaume-Uni pour cette raison-ci. Ça aurait effectivement des conséquences en chaîne, si je puis dire, sur l'équilibre politique qui, aujourd'hui, dans cette grande Europe à 28, repose plutôt sur un ménage à trois constitué par le couple franco-allemand et les Britanniques.
Un dernier mot pour conclure. Qu'est-ce que vous diriez de la situation actuelle que David Cameron a joué avec le feu?
Absolument, dans son pays, et puis que surtout au niveau européen, il est un peu sur le Titanic, et il se comporte comme non pas un copilote du Titanic, mais comme un passager VIP qui demande qu'on repeigne sa cabine et qu'on la remeuble. Et donc, évidemment, c'est un peu problématique d'accéder à ces demandes parce que les chefs d'État, donc les autres copilotes, ont d'autres chats à fouetter, d'autres défis à relever.
Merci Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors.
Et on a Daniel qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour,
oui,
Daniel.
Bonjour.
Vous n'avez pas envie de faire plaisir au Royaume-Uni?
Pas du tout, non. Déjà, on rentre dans l'Europe et on accepte les règles. Je vois pas pourquoi l'Angleterre, on leur ferait des passe-droits, ils auraient plus, comme vous venez de citer, là, s'ils ont trop d'immigrés ou des choses comme ça, ils pourront ne plus leur verser d'indemnités.
Mais ça a toujours été le cas, ils ont toujours eu, comme le disait à l'instant notre invité, un pied dedans, un pied dehors.
Oui, ben justement, c'est pour ça que je serais tout à fait d'accord pour qu'ils en sortent, parce que on paye plus que je paye. Déjà, ils n'ont pas la monnaie, déjà.
Alors, comme vous avez ils sont ni dans l'euro, ni dans Schengen.
Voilà, ils sont nulle part.
Ils ne payent pas la même contribution que les autres depuis que Margaret Thatcher avait
râlé. À un moment, il faut choisir. Voilà.
Non, mais je suis tout à fait d'accord que s'ils veulent pas venir, mais ils restent, hein, ils restent chez eux.
Eh bien, voilà, c'est dit, Daniel. On peut continuer à en parler au 32-10, y compris d'Angleterre. Hein. Je sais qu'on nous écoute outre-Manche. N'hésitez pas à faire le 32-10. J'imagine qu'on peut faire le 32-10 d'Angleterre. Ben, voilà, c'est aussi simple que ça.
Vous savez, il y a un truc, ça s'appelle le téléphone. Hein,
c'est pas vrai, comment ça marche? Moi, j'ai toujours un truc à fil que je branche.
À tout à l'heure.